Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. L'émission que vous allez entendre fait partie d'une série sur un même thème, celui du pardon. Elle se propose de vous faire partager les regards croisés d'académiciens et d'invités qui sont historiens, hommes de religion, juristes, anthropologues, thérapeutes et qui, chacun dans leur discipline, ont quelque chose à nous dire sur le pardon. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Académie une anthropologue, Danielle Vermeulaine. Bonjour Madame Vermeulaine.
Bonjour.
Et merci d'être venue jusqu'à nous pour nous faire partager vos connaissances, votre réflexion et surtout vos expériences aussi sur le pardon afin de nous faire mieux percevoir la spécificité du pardon sous l'angle de l'anthropologie. Vous êtes docteur en anthropologie sociale et sociologie comparée. Vous avez mené des études sous la direction de Louis-Vincent Thomas, l'un des grands maîtres des études historiques sur la mort. Et vos recherches ont particulièrement porté sur les croyances et les expériences en relation avec la mort. Ma première question, Madame Vermeulaine, nous allons parler du pardon que l'on donne, que l'on reçoit, qui est refusé, qui est nié. Ce sont les différentes formes du pardon que vous voulez aborder ?
Oui. Uniquement par rapport à la fin de vie. Il m'a semblé que, compte tenu de ma recherche qui porte sur l'évolution de la croyance à la survie après la mort, il était nécessaire que je me cantonne dans cette partie-là du pardonner.
Du pardonner. Alors, le pardon à la fin de la vie, c'est vraiment ou le moment de le donner, moment ultime, ou le moment de le recevoir, mais après, on n'a peut-être plus d'occasion.
Déjà, il y a cette première phrase que je trouve très belle de Claire Kéber, qui est une formatrice en unité de soins palliatifs, qui dit « Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, il nous reste à être ». C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le faire quand on est à la fin de sa vie. On n'a plus rien à faire.
Vous-même, vous avez pratiqué des soins palliatifs, vous avez regardé ce
oui,
domaine
j'ai
particulièrement
fait, oui, bien entendu, j'ai fait des enquêtes, notamment pour mon doctorat en unité de soins palliatifs, notamment au boulevard Jourdan, l'unité du docteur Abiven, où d'ailleurs je les en remercie parce qu'ils m'ont reçu d'une façon formidable. Et donc, si vous voulez, il est très difficile d'expliquer le mot « pardon ». Parce que c'est des facettes tellement multiples que moi, la seule définition que je pourrais donner, ce serait de dire que c'est un labyrinthe émotionnel qui part dans l'être humain dans différentes directions. C'est à la fois le pardon que l'on doit donner aux autres, mais aussi le pardon qu'on doit se donner à soi-même pour les actes que l'on a commis et dont il nous faut prendre conscience. Donc, si on a la possibilité de le faire durant la vie, c'est évidemment mieux que de le faire à la fin, car c'est un chemin qui est compliqué, qui est douloureux et qui demande du temps.
Est-ce que sur ce chemin, justement, on peut noter différentes étapes ? Est-ce qu'il y a des moments sur ce chemin qu'il faut faire pour aller jusqu'au pardon ?
Alors actuellement, enfin depuis maintenant une dizaine d'années, puisque c'était encore sous Clinton, les thérapeutes américains ont beaucoup développé cet aspect. Ils pensent, eux, que c'est quelque chose d'extrêmement important à faire, y compris en groupe. Ce contre quoi sont les thérapeutes français.
Ça ne se pratique presque
non.
pas en France,
non,
en
non,
tout
non,
cas
non,
pas à ma connaissance.
Pas.
Alors, quelles sont ces étapes ?
Ça se pratique en individuel, oui. Mais en groupe, ils estiment que ça n'est pas à faire, que c'est trop personnel, que ce ne sont pas des choses à faire personnellement. Bon, là, j'y reviendrai. Mais si vous voulez, on va se caler sur les États-Unis, puisqu'eux ont mis en place 6 étapes.
Enfin,
étapes pour parvenir à pardonner. Et ces 6 étapes sont extrêmement importantes parce que si on ne les fait pas, on peut dire à quelqu'un « je te pardonne ». Mais ce n'est pas ça. Pardonner, c'est bien autre chose. Donc pour eux, il s'agit d'abord d'accepter, de prendre conscience. Là, on est dans le pardon qui se fait durant la vie. Hein. Je n'ai pas développé ça très en détail puisque je préfère me caler sur la perspective de la mort imminente. Mais c'est déjà très important de savoir qu'on peut le faire pour vos auditeurs ou vos internautes, avant, et que c'est très important de le faire avant. Il y a d'abord à prendre conscience que l'on a eu mal. Parce que bien souvent, lorsqu'on a eu très mal, lorsqu'on a beaucoup souffert d'un acte qui vous a été imposé par quelqu'un d'autre, que vous aimiez, c'est toujours extrêmement difficile d'accepter cette souffrance et on la met de côté. On va faire un phénomène d'oubli, on va faire un phénomène de rationalisation en disant ben oui, oui, c'est effectivement, ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu se passer autrement. Enfin, on va trouver toujours des bonnes raisons pour faire qu'on n'a pas à s'en occuper et on va le mettre de côté. Donc ça, c'est prendre conscience que, vraiment que l'on a eu mal. La deuxième étape, je passe très vite, hein, évidemment, c'est arrêter de se blâmer soi-même, c'est-à-dire en se disant « on aurait pu me faire ». Si ça s'est passé comme ça, c'est que j'en suis en partie responsable. J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela, je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Et ça, c'est pas évident du tout à faire. Et la troisième étape est la plus difficile. Les deux thérapeutes donc cette jeune femme, Sophie Schisch, qui est la correspondante de la revue Psychologie aux États-Unis, c'est-à-dire Suzanne et Simon et Sydney Simon, disent que c'est la période la plus dure, c'est-à-dire sortir de son rôle de victime. Pourquoi moi ? Pourquoi m'est-il arrivé cela alors que je suis gentille, que je n'ai jamais fait de mal à personne ? Pourquoi a-t-il fallu que ça m'arrive ? Et il cite entre autres l'exemple d'un monsieur qui a eu, pendant la guerre, été incarcéré dans un camp de concentration où il a énormément souffert, vous vous en doutez, dont les parents ont été gazés et qui s'est retrouvé à devoir pardonner pour pouvoir vivre. Parce qu'en fait, c'est ça, si vous voulez, l'idée américaine, c'est de dire ce qui est important, certes, c'est de pardonner à l'autre, mais surtout de vivre soi, c'est donner la possibilité après de guérir et de vivre. Donc c'est très pragmatique, c'est pas du tout...
C'est le pardon guérison pour soi-même, c'est déjà.
Absolument, absolument, totalement.
Donc là, on en était à la troisième étape, sortir de son rôle de victime.
Donc Sydney Simon dit c'est une phase antipathique. Il emploie le terme d'antipathique parce que on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de sortir. Il y a une jeune femme qui a été violée par son père qui dit « Mais j'étais très bien, moi, dans mon rôle de victime. Je restais enfermée chez moi, je ne faisais rien, j'étais la victime d'un viol. C'était pas possible, je ne pouvais pas me donner à être à l'extérieur. » Et le fait qu'elle ait fait toute cette démarche de pardon vis-à-vis de son père lui a permis, en quelque sorte, de vivre, de sortir de chez elle et de s'assumer non plus en tant que victime, mais en tant qu'être humain à part entière. Cette partie 3 est très importante.
Très bien. Alors, une quatrième phase cursus.
Alors là, c'est vraiment c'est exprimer sa colère, son indignation. Vraiment, c'est hurler sa douleur. C'est le pivot de la guérison.
Ne pas s'empêcher d'hurler, en tout cas. Ne pas s'empêcher de crier que ça fait mal.
Et Sydney disait que la phase 3 faisait en sorte que, dans les groupes, un certain nombre de personnes ne pouvaient supporter cela et s'en aller. Arrêter le processus. Et ceux qui restent après, il leur reste donc deux étapes importantes, c'est-à-dire exprimer leur indignation. Il n'est pas question, quand on va pardonner, d'effacer la faute, entre guillemets. De dire non, ça n'était rien, pas du tout. Ça n'est pas une question d'oubli. Il n'est pas question de dire on va oublier, on pardonne, on donne une autorisation à l'autre de recommencer en lui pardonnant. C'est absolument pas ça. Pas du tout.
On ne minimise pas souffrance que ça a occasionné.
Non, absolument pas. Ni la faute. Ce que l'on fait, c'est qu'on se décharge d'un trop-plein qu'on a gardé en soi pendant très longtemps. Donc après, il y a une phase que les Américains considèrent comme n'étant pas essentielle, c'est celle de se confronter à l'autre, c'est-à-dire à celui qui a causé le traumatisme.
En reprécisant en effet que la confrontation à l'autre, c'est une des étapes, mais pas une étape forcément obligatoire. Dans
pour les Américains,
cas,
je précise bien pour les Américains, alors que ça n'est pas le cas pour les Français. Mm-hmm. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons en venir au cœur même de ma venue ici, à savoir le pardon de la fin de vie. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des pardons qui ont été refusés, pour ensuite vous parler du travail que vont faire les soignants, et notamment dans le cadre des bouddhistes.
Alors, si vous le voulez bien, Daniel Vermeulen, on va marquer une courte pause musicale avec une petite musique tranquille qui va nous apaiser. Et puis, on va se retrouver dans un court instant. retour dans notre studio en compagnie de l'anthropologue Daniel Vermeulen. Daniel Vermeulen, vous aviez l'intention de nous parler des personnes qui sont véritablement quelques moments avant la mort, quelques jours ou quelques semaines, on ne peut pas mesurer le temps, et qui ont besoin de pardonner ou d'être pardonné. Et puis, vous voulez nous parler aussi des soignants. Comment se comporter vis-à-vis de ceux qui vont mourir et qui ont un besoin de pardon?
Cette période de la vie, j'insiste bien là-dessus, et non pas de la fin de vie, cette période de la vie, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire, il nous reste à être. Puisqu'on sait que l'on va partir, peu importe la croyance, comme je vous le disais il y a quelques instants, dont on est porteur, on sait que ce sont des moments qui sont extrêmement précieux, puisque ce sont les derniers qui restent à vivre. Et comme le pardon est un acte de création de liberté intérieure, c'est un moment extrêmement important. Nous sortons complètement des dogmes religieux, nous sommes uniquement dans la perspective d'un être humain qui va finir son temps et qui est uniquement dans l'être. Mais pour pouvoir obtenir cette paix intérieure et enfin être libéré, nettoyé de tout ce qu'il a encombré, je dirais, durant sa vie et qu'il n'a pas réussi à régler, il nous faut être dans le pardon. Or, tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Et il y a plusieurs cas négatifs que je vais d'abord vous citer avant d'entrer dans ce qui est du positif et que les soignants peuvent faire ou la famille doit faire avec celui qui va s'en aller.
Alors, un ou deux exemples, en effet, de refus de pardon, finalement.
Voilà, tout à fait. Donc là, il s'agit d'un pardon refusé. Et c'était au point que la personne en voulait tellement à son mari qu'il avait quitté qu'elle a fait apposer par l'infirmière une pancarte sur sa porte disant qu'elle refusait toute visite. Cette personne est morte seule, uniquement avec cette infirmière en soins palliatifs.
Donc elle est morte dans sa haine, dans
sa souffrance, dans tout ce qu'elle a pu emmener avec elle de négatif. Après, que se passe-t-il après? Mais sur le moment, si vous voulez, au lieu de profiter de ces instants qui étaient précieux, puisque c'était les derniers, eh bien elle a préféré s'en aller avec ce poids sur elle, seule.
C'est en même temps son choix et sa liberté.
C'est tout à fait
un autre exemple.
Un autre exemple du même type, c'est la personne qui va nier l'acte qu'elle a fait en disant « Oh ben non, moi ce que j'ai fait, de toute façon, je suis très bien comme ça, je suis au clair, je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait que suivre mon chemin, tout ce que j'ai fait, non franchement, non. »
Un refus de remise en question.
Un déni.
Un déni.
Un déni total. Et finalement, qui a abouti à quoi? À une défenestration.
En fait, ça veut dire que quand on est vivant par rapport à celui qui meurt, il faut ne pas attendre que ce soit trop tard pour aller lui dire oui, pardon, je te libère, je te pardonne.
Voilà, absolument. Et donc, une infirmière me disait que c'était dramatique pour eux quand ils voyaient des familles qui refusaient donc aux mourants d'entrer en contact avec eux. Et puis qui, après, était dans le désespoir.
J'aurais mieux fait d'y penser avant.
Il n'avait pas pu. C'était bloqué, il ne pouvait pas. Et c'est ça le rôle du soignant, justement, d'essayer de permettre d'atteindre ce déblocage, en partie.
Daniel Vermeulen, quel est donc le point de vue des soignants? Comment peuvent-ils se comporter? Quelles sont leurs opinions, leurs impressions, leur rôle à jouer?
Donc par rapport aux exemples que je viens d'évoquer, qui étaient négatifs, ces soignants vous disent qu'ils assistent impuissants à ces situations qui sont négatives, mais qu'en même temps, ils peuvent apporter énormément à ces personnes qui sont en train de terminer leur vie et à leur famille. Donc pour eux, notamment c'est Marie-Danielle Roulet qui dit cela, elle dit qu'il faut favoriser un temps et un espace pour faire les prises de conscience amenant à la réconciliation et au pardon. Donc leur rôle à eux, c'est d'écouter déjà ce que peut dire le mourant quand il est conscient et d'amener cet espace, d'offrir en quelque sorte cet espace et ce temps de parole à la fois à la famille et aux mourants pour atteindre cette à la réconciliation.
Donc favoriser ce moment ultime de rencontre et d'apaisement, en fait.
Tout à fait.
Ne pas laisser mourir quelqu'un sans qu'il soit apaisé.
Absolument.
Et donc qu'il ait pardonné ou qu'il soit pardonné.
Absolument.
Selon les cas de figure.
Et elle disait à quel point c'est difficile pour eux d'accepter quand il y a un non-pardon qui n'est pas ni accordé ou reçu.
Daniel Vermeulen, dans vos études d'anthropologie sociale et d'anthropologie religieuse, et notamment avec Michel Mélin et avec Michel Hulin, et des études que vous avez menées à la Sorbonne, vous avez étudié particulièrement la position du bouddhisme et de l'hindouisme. Par rapport au bouddhisme, que pouvez-vous nous dire ?
Alors là, je vais faire référence à une conférence qui a été donnée par un maître zen qui s'appelle Kangan, où justement, lui, dans sa pratique européenne, essaie de faire parvenir à la paix de la conscience la personne qui est en fin de vie. C'est l'objectif du bouddhisme, c'est ça, parvenir à la paix de la conscience. Et donc, pour lui, il a cité un exemple extrêmement concret lors de cette conférence pour montrer quels étaient les quatre actes à accomplir pour être en paix au moment de la mort. Donc ces quatre actes à accomplir pour être en paix au moment de la vie, c'est-à-dire exprimer son pardon,
oui,
à l'autre, et exprimer son repentir pour soi-même, pour ensuite avoir une aspiration à un accomplissement spirituel, et enfin, dans la pratique zen, qui est le recueillement pur et nu, c'est-à-dire qu'on s'est nettoyé de tout, on est pur, on est nu, et là, on va pouvoir enfin trouver la paix de la conscience. Donc, il cite un exemple qui est très parlant, parce qu'il s'agit d'une dame qui n'est absolument pas bouddhiste, mais qui, au cours d'une visite qu'il va faire à sa mère à l'hôpital, va l'interpeller parce qu'il est en tenue de moine zen. Elle le prend pour un prêtre et elle lui dit « j'ai à vous parler ». Et donc, il s'approche d'elle, il lui prend les mains et lui dit « vous voulez parler de l'après-mort ?» Elle dit « Non, non, je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand on meurt, là, maintenant. » Donc c'était sa question du moment. « Je ne veux pas savoir ce qui va se passer après, je ne suis pas en mesure de le savoir. Par contre, je veux que vous me disiez ce qui va m'arriver là, maintenant. » Et là, avec ces mots à lui, de bouddhiste, il a pu se mettre à portée et dire les mots qu'elle, elle pouvait entendre. Vous comprenez ? C'était ça qui est important. C'est se mettre à la portée de l'autre et lui dire les mots qu'il est capable d'entendre. Il aurait pu lui faire un grand discours bouddhiste zen, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de se mettre à la portée de cette femme pour qu'elle puisse partir en paix. Donc, il va lui dire « Vous avez une peur de l'inconnu, et tout le monde peut le comprendre, mais avant, donc pendant ce temps qu'il vous reste, eh bien, vous allez dire tout ce qui, dans votre vie, vous a blessé. Vous allez l'exprimer, vous allez le dire, vous allez le parler, vous allez me le dire. » Et alors, il a cette expression, il lui dit, vous allez dire votre chienne à qui vous avez gardé un os, contre qui vous avez quelque chose. Et donc, la personne est extrêmement surprise d'une vieille dame, et malgré tout, elle arrive à parler et à dire tout son ressentiment, en quelque sorte. Et il lui dit, ces histoires, ces chagrins, ces rancœurs, dites-moi ce que vous ne voulez pas emporter avec vous. Et c'est très parlant.
Oui, c'est très parlant, bien sûr.
Donc, elle
comprend
va,
tout à fait.
Elle va tout sortir, elle fait l'inventaire de tout ce négatif.
Qu'elle n'a pas envie d'emmener de l'autre côté.
Qu'elle n'a pas du tout envie d'emmener de l'autre côté. Et alors, maintenant, il lui dit, ce gros paquet d'histoires, de chagrins, que vous ne voulez pas emporter, vous allez dire, dites-moi que vous leur pardonnez à tous. Alors elle dit, oui, oui, je pardonne. Elle le dit comme ça, oui, oui, je pardonne. Il lui dit, non, dites-le vraiment. Alors elle devient très grave, elle se pose, elle dit, je leur pardonne. Donc là, elle a vraiment pardonné. Et il lui dit, bah, maintenant que vous leur avez pardonné à eux, vous allez vous pardonner à vous. Et vous allez essayer de voir dans votre vie quels sont les actes que vous avez commis et qui n'étaient pas positifs, où vous avez fait tort, comme on disait tout à l'heure, à quelqu'un. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais voulu faire le mal à quiconque, mais bon, c'est vrai que j'ai fait ceci, que j'ai fait... Mais il lui dit, mais c'est inutile de me le dire à moi, dites-le-vous à vous. Moi, je n'ai pas besoin de connaître toute votre vie, mais faites-le.
Pour se pardonner à
pour
soi-même.
Pour vous pardonner. Vous allez complètement vous nettoyer et une fois que vous aurez tout nettoyé, vous sentirez que vous êtes complètement soulagé. et que là, à ce moment-là, vous pouvez faire un chemin. Donc vous allez, vous aussi, vous accorder le pardon pour tout ce que vous avez fait. Et là, c'est formidable parce qu'elle arrive à un point où elle est nue, complètement nue. Voilà. Et alors il lui dit, donc on en arrive au troisième stade, il lui dit maintenant, bon certes, ça n'est pas votre doctrine, mais chez les bouddhistes on croit à la réincarnation. Alors je vous pose une simple question, si vous arrivez de revenir sur Terre, est-ce que vous aimeriez être une personne qui aide les autres, qui aime les autres, qui ne veut faire que du bien et ne pas faire le mal, qui sont les trois principes donc zen? Est-ce que ça vous conviendrait? Est-ce que ça vous plairait? Et elle lui dit, oh oui, oui, je voudrais bien ça. Ça serait vraiment super. Il dit, ben maintenant, vous êtes dans la paix de votre conscience et vous pouvez partir. Et donc, il l'a laissée là, il est parti. Et quand il est revenu, donc, 2 ou 3 jours après, il a appris qu'elle était décédée et qu'elle était morte très tranquillement, sans souffrance, comme une petite bougie qui s'éteint. Donc, vous voyez, ces 4 stades du cheminement, nous dirons bouddhistes, peut-être
qui rejoignent les stades.
Absolument.
Que vous avez décrits pour les thérapeutes américains.
Oui, sauf que là, on est véritablement dans une recherche spirituelle qui
c'est
va
cela.
Mener à quelque chose où, parce qu'on a tout vidé, on peut de nouveau construire quelque chose avant de partir et de nouveau être dans du fer, en fin de compte. Mais un fer qui est
différent
et extrêmement positif. Donc en conclusion, si vous le voulez bien, je vais vous citer donc une phrase donc de cette jeune femme qui a fait ce livre.
Claire Kébers, c'est cela?
Oui, Claire Kébers, et qui dit « Le pardon en fin de vie n'est pas une question d'assurance pour son salut, mais une question de communication pour aimer et se laisser aimer devant les quelques jours qui reste à vivre. »
Merci Danielle Vermeulen de nous avoir fait partager vos connaissances tant en thérapie américaine que pour ces conceptions bouddhistes. C'est extrêmement important. C'est un bouddhisme zen, hein, ce ne sont pas toutes les voies du bouddhisme, mais c'est important. Et merci pour les exemples humains que vous nous avez cités aussi. Et je voudrais préciser pour nos auditeurs que l'ouvrage dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission, l'ouvrage de Claire Kébers, K-E-B-E-R-S, s'appelle « La vie in extremis ». Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.